Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine, j'accueille des entrepreneurs, des artistes ou encore des athlètes pour qu'ils nous partagent leurs conseils pour prendre le pouvoir de sa vie. Cette semaine, je suis très heureuse d'accueillir le chef le plus étoilé au monde, Monsieur Alain Ducasse. C'est vraiment un rêve pour moi, grande épicurienne et amoureuse des passionnés, que de rencontrer ce chef qui a transformé non seulement le paysage de la gastronomie française, mais également mondiale. Pour vous donner une petite idée, Alain Ducasse, c'est 34 restaurants dans le monde, 2000 collaborateurs, plus de 100 ouvrages parus dans sa propre maison d'édition, une école de formation, des hôtels et des laboratoires de réflexion et de création, les manufactures. Il semblerait que rien n'arrête et j'ai voulu creuser afin de découvrir où il puise cette détermination, cette confiance qui le pousse à toujours essayer. Dans cet épisode, on échange avec Alain sur les mentors qu'il a rencontrés au cours de sa vie, ce qu'ils lui ont appris, ce qui lui a donné envie de partager à son tour et comment il parvient à sans cesse se renouveler. Un épisode passionnant qui aurait pu durer des heures, mais Alain Ducasse a un emploi du temps chargé. Je suis déjà ravie d'avoir pu échanger toute une heure avec lui et de pouvoir vous le partager. Si c'est la première fois que vous écoutez In Power, bienvenue. Plus de 200 autres épisodes sont disponibles sur le podcast si vous souhaitez continuer à être inspiré. Et si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être que le podcast vous plaît, alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Alain Ducasse. Bonjour Alain.
Bonjour.
Bienvenue sur In Power et merci de nous accueillir dans le salon des manufactures à Paris. C'est magnifique. En vidéo, vous pourrez le voir. J'ai une question par laquelle je commence pour tous mes invités. Est-ce que vous pouvez vous présenter de la manière dont vous le souhaitez ?
Moi, si je n'avais pas été cuisinier, j'aurais été voyageur, aventurier, architecte, designer. Bon, je suis un peu détroit aujourd'hui et c'est ce qui me passionne et je suis un voyageur du monde. Je rêve que demain je serai à New York et la semaine passée j'étais à Kyoto et la semaine prochaine je serai en Thaïlande. Voilà, je rêve de savourer le monde, de trouver et d'aller à la rencontre des hommes et des femmes que je ne connais pas encore, qui vont me faire très certainement découvrir des saveurs que je n'imaginais pas avoir goûtées ou que j'allais goûter la semaine prochaine.
C'est vrai, vous en parlez très bien, je trouve, dans votre nouveau livre « Une vie de goût et de passion », notamment de la découverte du goût neutre. Donc c'est l'umami, je crois, hein, oui. Qu'on dit en tout cas en japonais.
Neutre ou savoureux.
Donc neutre c'est ou savoureux, entre... ah oui. Parce c'est... que c'est vrai que ça sonne pas pareil dans l'imaginaire.
Ouais. Les Japonais aiment le goût neutre, qui est le goût, mais qui est aussi très souvent une consistance. Et l'umami, c'est le savoureux. On a le savoureux, on ne sait pas le nommer. Mais le plus proche de l'unami, c'est savoureux pour moi.
D'accord, ok. Bon, j'ai pas mal de questions à vous poser, mais juste avant de commencer cet épisode, on était en train de parler du fait que vous embauchez des gens assez jeunes et que vous aimez bien justement les aider à développer leur carrière. Moi, ça m'interpelle, je viens juste d'avoir 25 ans et c'est vrai que je trouve que même si les choses commencent à bouger, en fait, c'est assez rare dans notre société de faire confiance aux jeunes. C'est-à-dire que je pense que là, il y a pas mal de gens qui nous écoutent, qui ont du mal à trouver un stage, qui ont du mal à trouver un premier emploi, parce qu'en fait, on nous demande à 24 ans, d'avoir déjà une expérience. Bah oui, mais si personne ne nous fait confiance, on ne peut pas l'avoir.
Non, mais nous, on est là pour donner des expériences.
Moi, ouais.
J'ai ouvert les portes depuis très longtemps, depuis 35 ans. J'ai ouvert les portes à des jeunes qui sont venus, qui ont fait pour la plupart de brillantes carrières, mais si je ne leur avais pas ouvert la porte et donné l'opportunité de venir prendre, parce que je dis toujours un collaborateur qui vient et qui veut partir, je lui dis, est-ce que tu as tout pris ? Est-ce que tu as pris 85% de ce qu'on a à disposition dans le restaurant, dans la cuisine ? Est-ce que tu as appris suffisamment avant de partir ? Ce n'est pas la peine de partir si tu n'as pas appris. Donc on a ouvert les portes, on a ouvert les placards, vous servez. C'est pour ça qu'on est devenu éditeur, pour donner tout de nos recettes. Et en ce moment, je suis dans une démarche d'engager que des trentenaires. Moins de 30 ans, plus de 30 ans, je pense que c'est le renouveau de l'entreprise. L'entreprise a pris de l'âge. Les collaborateurs, l'encadrement, comme moi, il y a encore quelques quadras, mais maintenant, il faut changer de génération. Les 40, 60, 65, il y en a assez. Donc, on
renouvelle, quoi.
Énergise avec de la jeunesse. Passionnante, passionnée. Curieux, zappeur, voilà. Donc on a ouvert les portes.
Et est-ce que vous arrivez à garder le lien avec cette génération ? Parce que, bon alors, on le voit, hein, vous êtes très ouvert, très connecté, mais en fait c'est difficile, je trouve, parfois de se comprendre voilà, entre une ou deux générations. Comment est-ce que vous arrivez quand même à...
Il faut faire confiance. Il faut les accompagner, il faut les conseiller, mais il faut les laisser faire. Enfin, moi, je ne sais pas faire ce qu'ils sont capables de m'apporter, donc il faut bien les laisser faire. Là, ma dernière conquête, c'est la petite Flora, elle a 30 ans, elle est canadienne. Elle travaille avec nous à Londres, elle travaille pour nous à Hong Kong. Elle vient de rentrer, son fiancé est mon chef à l'école du CAS à Meudon. Et elle est Madame Biscuit, Flora. Elle s'est mise à mélanger du beurre, du sucre sous nos conseils depuis 12 mois maintenant, le conseil de mes pâtissiers. Et aujourd'hui, elle est certainement celle qui fait les meilleurs biscuits de France et d'ailleurs. Elle est passionnée, voilà. Donc, elle a toute ma confiance. Elle va venir me faire goûter les choses qu'elle a développées pour Noël. Je suis assez tranquille quant à sa capacité de faire différemment parce qu'en fait, elle n'a pas la lourdeur du passé, d'un apprentissage classique, etc.
Elle
vient
formatée,
d'ailleurs.
Quoi.
Donc, elle a une ouverture d'esprit que nous n'avons pas. Donc, je vais goûter. Je suis assez tranquille sur la modernité qu'elle va nous apporter.
Et comment vous parvenez, parce que vous y parvenez très bien, à fidéliser tous vos collaborateurs, parce qu'il y a aussi des entrepreneurs qui nous écoutent ou des managers, et c'est un vrai enjeu de notre génération. Aujourd'hui, il y a un turnover, on va dire, qui est vraiment important.
Le turnover, ils peuvent le faire chez nous.
Oui, c'est vrai.
Ils peuvent aller à l'étranger, ils peuvent changer d'activité. On peut passer de l'opérationnel au conseil, on a plusieurs départements, on peut les faire voyager, on peut faire des G1 pour les aller aux États-Unis.
Mais ce n'était pas le cas au début. Donc comment vous avez fait au début ?
Depuis toujours, les portes sont ouvertes. On s'est toujours débrouillé pour obtenir des papiers, pour faire venir des stagiaires du monde entier. Aujourd'hui, à notre école à Meudon, nous avons 74 passeports différents.
Ah oui.
J'ai accueilli les derniers, là, il y a début septembre, j'ai accueilli les 120 nouveaux élèves, 24 passeports dans les 120 nouveaux élèves, ça venait de partout, les questions sont intelligentes, ils ont les yeux ouverts, ils sont là pour apprendre, pour s'imprégner du savoir-faire français, de la culture, pas que de la cuisine, un certain état d'esprit de l'excellence française autour de notre industrie qui est la gastronomie, dans le sens large du terme, la gastronomie ça ne veut pas dire que la haute gastronomie, c'est apprendre à faire à la fois des croissants, des brioches, à savoir rôtir en poulet, avoir une attention portée à aux ressources rares de la planète, de manger différemment. On leur apprend déjà moins de gras, moins de sel, moins de sucre, plus de protéines, moins de protéines animales, plus de protéines végétales, davantage de légumes. Voilà. Une cuisine meilleure pour la santé, meilleure pour la planète, une cuisine bonne à penser avant d'être bonne à manger. C'est en tout cas le bagage que nous voulons leur offrir pour que quand ils vont rentrer dans leur pays, ils soient des acteurs intelligents et des citoyens du monde engagés, humanistes. Voilà, ça va. C'est plus que la cuisine. Voilà,
c'est une mission de vie. Hein, ouais.
C'est ce qu'on fait partout en entreprise. Et dans les jeunes, on est capable, dans notre entreprise, de les faire grandir, de les faire voyager, de les faire changer de route.
Ça, c'est une vraie réussite, ouais, de vous les accompagner.
On essaie, puis s'ils s'en vont, ils reviendront.
Ouais. c'est ça votre philosophie
partir, ouais. Ils peuvent partir, ils reviendront riches d'une expérience différente. Ils viendront enrichir notre entreprise après s'être enrichis pour eux.
C'est vrai.
Ils reviendront, ils partent, ils reviennent. J'ai beaucoup de collaborateurs qui partent et qui reviennent.
Il y a une question qui me vient aussi, vous en parlez. Vous représentez la gastronomie française, mais c'est assez rare pour un chef. Aussi bien la partie viennoiserie que la partie chocolaterie, que la partie glace, que la partie cuisine. Alors vraiment, ce que je me demande, c'est comment bien réussir à tout faire. Alors on y viendra après. Vu que vous, c'est le cas non seulement en cuisine, mais je trouve dans même d'autres domaines de l'entrepreneuriat.
En ayant des bons collaborateurs.
Quand
on décide de faire du chocolat, Nicolas, mon premier partenaire du chocolat, était mon pâtissier à New York. Il se trouve que sa femme américaine dit un jour, j'aimerais bien vivre à Paris. Donc, il vient à Paris, il reste mon corporate chef pour le monde. Et puis un jour, il vient me voir, il me dit, chef, je suis fatigué de voyager comme vous. J'aimerais me poser à Paris. Et je lui dis, tu aimerais faire quoi ? Il me dit, j'aimerais faire du chocolat. Ben, je lui dis, on va démarrer une activité de chocolat. C'est simple. Il m'a dit, mais je ne sais pas faire le chocolat. Je lui dis, c'est pas grave, on va apprendre à faire le chocolat. Moi, je sais faire le chocolat parce que je l'ai appris dans les années 75. Bon, j'appelle là où j'ai appris. Et puis voilà, il est allé travailler en Italie. On a appris. Et puis on est devenu, une fois qu'on a appris la base, on a amélioré ce qu'on avait appris.
Ouais.
Et donc aujourd'hui, très sincèrement, il a formé des collaborateurs. Quentin, qui est mon collaborateur d'aujourd'hui, était son adjoint. Voilà, donc une espèce de la permanence de la promotion interne, de voir grandir mes collaborateurs me réjouit, de les voir partir et les voir revenir, enrichir une expérience différente. Et chacun va toujours essayer de progresser. Il faut progresser économiquement, professionnellement, dans l'intérêt du travail quotidien. Là, j'ai ma jeune chocolatière de Tokyo qui voulait revenir à Paris, qui voulait revenir en France parce qu'elle avait aimé la France quand elle a appris le chocolat à Paris. Ben, elle est revenue. Elle est maintenant la numéro 3 du chocolat, c'est une jeune japonaise, voilà, et il y a un jeune français qui est parti au Japon pour la remplacer, voilà. Donc, en fait, si on fait un peu attention, je conseille aux jeunes de voyager maintenant, parce que quand on a 40 ans, on n'a plus envie de voyager, on a une famille, donc il faut le faire
c'est
maintenant.
C'est plus compliqué, ouais.
Voilà. Et on se débrouille pour les faire se rencontrer. Il y a une jeune maître d'hôtel qui est maintenant chez Benoît, qui était à Benoît New York. Je crois qu'elle veut repartir, mais elle va repartir, ouais, et puis elle reviendra.
Mais là, moi, alors, ayant moi-même une entreprise, parce que quand on vous écoute, c'est presque facile de remplacer quelqu'un, alors que dans les faits...
C'est pas facile.
Voilà, c'est pas facile.
C'est
comment est-ce que vous trouvez...
Non, mais dans le sens,
quand quelqu'un part, voilà, c'est son choix, elle veut revenir par exemple en France, mais par exemple, comment vous trouvez la bonne personne pour venir remplacer, surtout quand c'est des postes voilà, de chef, de pâtisserie,
d'abord,
de chocolatier.
Je suggère que la personne... essaie de nous proposer sa suite. J'ai un garçon qui va partir, fin février. J'ai dit, il faut que tu me trouves ton remplaçant. Je n'ai pas le temps de chercher, tu vas me trouver ton remplaçant. Sinon, tu ne pars pas. C'est un plaisanterie, je ne peux pas l'empêcher de partir. Mais bon, donc, il réfléchit, je suis sûr qu'il a envie de trouver un copain qui va venir le remplacer. Enfin, voilà, on essaye comme ça. Est-ce que c'est aisé de remplacer quelqu'un parce qu'on est confortablement, il est confortablement installé dans sa fonction, ça satisfait l'entreprise? C'est aussi se mettre en risque, c'est aussi laisser la place à quelqu'un de prendre la sienne. Enfin voilà, donc c'est une dynamique d'entreprise que j'aime bien, de prendre le risque de voir des collaborateurs partir, revenir, etc. On aime bien ça.
Vous avez toujours aimé prendre des risques, j'ai l'impression. En tout cas, c'est aussi le sentiment que j'ai eu à la lecture de votre dernier livre. Ce qui m'a interpellée déjà, c'est que vous avez quitté l'école hôtelière dans laquelle vous étudiez, ce qui était quand même rare, c'était dans les années 70.
Je ne l'apprenais pas assez vite. On est dans les années 75, ça va pas assez vite.
Ouais. Parce qu'en plus, vous ne connaissiez rien, vous aviez déjà cette réalisation qu'en fait, là, c'était trop lent pour vous.
Je voulais apprendre plus vite. Je voulais apprendre beaucoup plus vite. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait.
Et donc, vous êtes parti, vous avez
commencé par
l'expérience.
Maintenant, on fait des écoles, on apprend vite, parce que ce sont des écoles privées. Donc, on apprend plus vite que dans le système traditionnel, où on prend trop de temps. C'est comme ça.
Et du coup, pour vous, la formation, au final, c'est plus de l'expérience, c'est plus de la transmission,
c'est d'apprendre plus, plus vite et mieux que les autres. Apprendre plus, plus vite et mieux que les autres. Parce que dans notre industrie, la compétition est internationale, bientôt interplanétaire. Donc, tous les pays se sont appropriés l'idée que la gastronomie était un atout d'une destination touristique. Donc la compétition qui n'existait pas il y a un quart de siècle existe aujourd'hui. Donc si on ne fait pas plus, plus vite et mieux, on a peu de chances d'y arriver. Voilà.
Et comment vous-même, vous parvenez à apprendre toujours aujourd'hui, plus vite et mieux?
Parce que je reste les yeux ouverts sur le monde. Demain soir à New York, je suis sûr que je vais croiser quelqu'un qui va m'apporter quelque chose. Je vais aller dîner, voilà. Je voyage et je fais toujours...
Est-ce que vous avez un petit carnet avec vous dans lequel vous notez des idées?
Oui, plein de post-it.
Ouais, plein de...
J'en pile des post-it. J'ai pas de carnet.
Une pile de post-it. Chacun ses techniques. Hyper intéressant.
Je note tout. Hein.
Du coup, après après avoir quitté l'école hôtelière, vous avez vos premières années de formation auprès de différents chefs.
Ouais.
Qu'est-ce que, peut-être si vous pouvez nous partager les trois enseignements les plus importants que vous avez appris auprès de ces chefs, ce seraient lesquels?
Alors, auprès de Michel Guérard, prend une forme de liberté culinaire, d'expression, libérée du carcan classique. Auprès de Roger Verger, j'apprends la rigueur, la discipline d'une organisation, de la brigade. Auprès d'Alain Chapelle, j'apprends le raffinement, la technique juste, l'excellence de la sélection des produits, et tout ça mélangé, plus l'apprentissage auprès de Gaston Lenôtre, qui... En 1975, faisait encore la pâtisserie. Donc moi, j'ai appris les croissants avec M. Gaston Lenôtre. Voilà, donc tout ça mélangé m'a enrichi. Mais ce n'est qu'une base, parce que quand on a... C'est une boîte à outils qui nous permet de mieux comprendre les cuisines d'ailleurs et d'apprécier, de s'enrichir quotidiennement, d'enrichir mon disque dur, d'avoir une mémoire gustative toujours plus riche d'expérience. Donc ce qui me permet, quand je goûte, d'avoir toujours un référent... qui est meilleur et d'essayer d'améliorer, je dirais d'affiner le trait. Donc je vais toujours pousser un collaborateur, un jeune collaborateur qui m'a fait goûter un plat, je vais essayer de l'accompagner pour lui dire, moi j'enlèverai ça, enlever tout superflu pour ne garder que l'essentiel. Bon, c'est mon rôle aujourd'hui, je suis un directeur artistique de mes cuisines, de mes restaurants, j'accompagne ces jeunes et je les pousse à aller plus vite, à grandir plus vite, pour que personnellement, professionnellement, d'abord, puis pour qu'ils puissent prendre des postes dans mon entreprise rapidement, qu'ils puissent diriger un restaurant, qu'ils puissent diriger une sommellerie. Voilà, c'est notre passion, parce qu'on peut développer l'entreprise si on a formé des bons collaborateurs capables de prendre des responsabilités et de les assumer, et qui donnent leur personnalité au lieu qu'ils habitent, la fonction qu'on leur a donnée. Donc, chaque lieu est différent, donc il faut qu'ils se sentent un peu chez eux pour faire bien leur métier. C'est le sentiment que je veux développer, d'appartenance au groupe, avec la notion d'hospitalité, sans oublier la rigueur et la discipline, mais avec... on n'est pas parfait, mais en tout cas, on est différent.
Ouais. Et c'est une question que je me posais aussi, vous l'avez dit, vous êtes un peu maintenant un directeur artistique de vos cuisines. J'ai l'impression que quand on devient entrepreneur, en fait, il faut accepter l'idée qu'on ne va plus faire ce qu'on faisait au départ. Et donc moi, de l'extérieur, je me dis, mais attendez, moi, ce que vous aimiez faire, c'était cuisiner. Et en fait, vous n'avez plus tellement l'occasion de le faire aujourd'hui. Comment vous l'avez accepté ?
Je cuisine dans ma tête. Quand je décide de faire des biscuits, je veux faire les meilleurs biscuits du monde. J'ai la petite Flora qui est passionnée par ça. Elle est supervisée par Quentin, qui est le directeur des manufactures, qui lui vient du chocolat. Il va superviser les glaces. J'ai un jeune Italien de Modène, de Bologne, qui est arrivé. Voilà. Donc tout ça, c'est à moins de 40. Tous ces jeunes, ils ont entre 28 et 40 ans. Voilà, c'est une émulation. Ils sont en compétition. Donc c'est celui qui va aller le plus vite, qui va m'étonner.
Donc la compétition peut être saine.
Oui, une saine compétition. Non, mais c'est celui qui va
tirer son épingle du jeu, quoi. Ouais,
ouais. Donc ça se passe.
Et donc
moi, je suis l'animateur de tout ça.
Ça vous manque pas, enfin, je veux dire, de faire. C'est déjà un rôle énorme, hein, mais.
Non, mais j'imagine.
C'est diriger, c'est pas cuisiner, quoi.
Non, j'imagine les choses de demain, mais moi, mon grand plaisir, c'est de goûter les choses dont je n'aurais pas imaginé qu'un jeune collaborateur soit capable de me faire goûter aujourd'hui. Ça veut dire qu'il a appris, qu'il s'est enrichi, qu'il a synthétisé, et il va m'étonner. Je suis étonné du niveau de qualité des jeunes hommes et femmes que je croise. Et là où ils sont arrivés, c'est amusant parce que j'ai dans mes équipes une star qui travaille pour moi qui s'appelle Cédric Grollet.
Ah oui.
Il me dit, mais est-ce que vous imaginez il y a 10 ans que j'allais arriver là? Je lui ai dit non, je n'imaginais pas, mais tu as travaillé, donc tu mérites là où tu es, puisque tu as beaucoup travaillé. Et il continue à travailler, à progresser. Voilà,
Est-ce que pour vous, c'est le
Grollet, c'est le pâtissier le plus successful d'aujourd'hui dans le monde. Hein.
C'est sûr. Voilà, ouais. Il maîtrise aussi très bien les réseaux sociaux, donc il communique très bien sur
savoir-faire. Hein. Il fait ses images avec son portable.
Ah ouais.
Il est autonome.
Ce que j'ai rencontré, François, je crois, son sous-chef.
Son petit adjoint.
Qui est super sympa aussi.
Super.
Donc je pense qu'il a bien retenu vos conseils et il s'est bien entouré.
Ah non, mais il a des jeunes absolument. C'est une petite équipe là avec Johan, François. Là, tous les trois, ils sont incroyables. Ils sont passionnés, ils ont les yeux ouverts sur le monde, ils regardent le monde, ils savourent le monde. Et ils sont au meilleur niveau de leur expertise. Ils ne cessent jamais de progresser, de chercher, d'avancer. Voilà.
Mais je vais vous dire, moi j'ai toujours eu cette impression que le métier de chef, de cuisinier, représentait le mieux ma vision du bonheur et de l'épanouissement, dans le sens où c'est un métier passion. Et c'est un métier où, en fait, on a toujours des opportunités de progresser.
Oui,
c'est-à-dire qu'on peut commencer commis, puis après on est sous-chef.
Ascenseur social extraordinaire.
Exactement.
Notre métier est un ascenseur social extraordinaire. Là, j'ai un jeune, nous avons une école aux Philippines. Nous avons donné l'opportunité à un orphelinat de former des élèves gracieusement. Et là, il y a un jeune qui a été récupéré dans la rue, nous avons formé, qui est dans un de mes établissements, qui est chef de partie. Il avait une petite fiancée aussi, que nous avons récupéré. Ils ont les papiers, ils travaillent à Paris, ils viennent d'avoir un enfant. C'est de la rue Amani à un statut social à Paris. Donc, vous voyez le gap.
Et ça il y a peu de métiers qui permettent en effet un tel ascenseur social.
L'ascenseur social est extraordinaire, mais là c'est la caricature. J'avais fait le pari que cela était possible. Cela est possible. Mm. Bien sûr, ce n'est pas commun, hein. Mais c'est possible.
Vous vous êtes implanté dans beaucoup de pays dans le monde. Vous en parlez aussi dans le livre. Et ce qui me questionne, c'est comment réussir à bien comprendre et appréhender une culture. Parce que voilà, on mange pas. Enfin, en fait, c'est apporter vous votre savoir-faire tout en réussissant à le mixer, on va dire, avec la culture et la cuisine locale. Et ça, c'est difficile parce qu'en plus, est-ce que vous y viviez dans ces pays quand vous les lancez ?
Pas du tout. Non, moi, je suis un cuisinier local. Global dans la vision, local dans l'expression. Quand j'arrive à Kyoto, nous avons ouvert deux restaurants pendant le confinement. J'y étais il y a 15 jours. Je m'installe dans le restaurant que je n'ai jamais vu. On a envoyé tous les plans, on a envoyé tous les objets, on a tout fait depuis Paris. Et là, je fais un délicieux dîner avec 95% de produits locaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des bonnes volailles dans le Kansai, il y a des bons légumes, il y a des bons techniciens. C'est un bon jeune chef japonais qui a appris avec nous. Voilà, donc je ne suis pas surpris. Donc c'est une expression locale. Mais pour ça, il faut avoir une vision globale et avoir la capacité de démontrer que oui, on peut le faire. Si on a décidé de regarder ce que j'ai, ce dont je dispose comme ingrédient, je regarde ce que je sais faire avec, c'est ce que je fais là où je suis. Et je procède toujours de la même manière. J'ai une vision globale et une expression locale. Je suis un cuisinier local.
Et il faut savoir, ce qui est difficile, je trouve, c'est qu'il faut savoir être...
Rien n'est facile.
Oui, c'est vrai. Et même, ça m'a interpellée, j'ai plus la citation exacte, mais je sais que dans votre livre, à un moment, il y a une phrase, il faut toujours choisir le chemin le plus difficile. Et en fait, ça m'a interpellée parce que c'est un peu contre-intuitif. Est-ce que vous avez toujours pris le chemin le plus difficile ?
En tout cas, je sais où je veux arriver, et si le chemin n'est pas facile, on le prend quand même.
Oui.
Mais en tout cas... C'est pas exactement ça. Je dis, je veux choisir d'être toujours au meilleur niveau. Donc, c'est le chemin le plus difficile d'être au meilleur niveau. D'autre part, quand vous êtes au meilleur niveau, c'est l'endroit le moins encombré, puisque tout le monde ne peut pas y arriver parce que tout le monde n'a pas fait l'effort d'y arriver. Donc, se situer au meilleur niveau, c'est plus confortable quand on est à destination.
Oui, quand on a destination, mais après, tout le chemin, là, il est plus compliqué.
Mais c'est plus confortable quand on y est.
Ouais.
Et après, il faut s'y maintenir.
C'est ça qui est difficile.
C'est moins aisé.
Et comment vous le faites ? Parce que c'est vrai que ça fait des années.
C'est des collaborateurs. C'est sans cesse, en fait. Moi, je suis là pour redonner le tempo, pour réénergiser, pour remettre au goût du jour. Moi, j'aime beaucoup le mot italien, aggiornamento, remettre au goût du jour, se remettre au goût du jour. Au goût du jour, c'est nourrir le consommateur d'aujourd'hui. Ce n'est pas celui d'hier, ce n'est pas celui de demain, c'est celui d'aujourd'hui. Le consommateur d'aujourd'hui, il est curieux, infidèle, zappeur, surinformé, suralimenté, surstressé, surpressé. Et il faut encore l'étonner, il faut le fixer, il faut lui capturer son attention, essayer de l'étonner. En tout cas, de lui faire passer un moment délicieux, qu'il se souvienne du moment qu'il a passé chez nous, avec tous ces éléments tangibles, de créer l'intangible, le sentiment qu'il a passé un moment de bonheur, qu'il reviendra. Il reviendra acheter un biscuit, il reviendra acheter une glace parce qu'il se souvient que cette glace est délicieuse. Il reviendra acheter des chocolats parce que ces chocolats sont différents, ils sont emballés de manière différente. On s'est occupé de lui, on l'a accueilli, on lui a fait goûter un chocolat, on l'a accompagné à la porte, on lui a demandé s'il était content. Voilà, on s'est occupé de lui, on a prêté attention dans un monde... connecté, je pense que la notion de la relation individuelle, de rentrer dans le magasin où on vous dit bonjour, on fait goûter quelque chose, on vous demande, on prête attention à l'autre. Je pense que c'est l'ingrédient supplémentaire qui crée le sentiment intangible et le souvenir d'un délicieux moment passé, le temps de venir acheter une glace, le temps de venir acheter un chocolat, le temps de passer un déjeuner, un dîner, le temps de venir apprendre à l'école. À l'école, on apprend autre chose. On n'apprend pas que la pâtisserie ou que la cuisine. On apprend une attention portée à la planète. On apprend une vision humaniste de notre industrie pour partager. C'est un moment de sociabilité, de s'asseoir autour d'une table, de causer. C'est un moment où la guerre s'arrête. Je dis, nous avons mis à table des gens de pays en guerre et pendant le temps du partage, de la commensalité, de l'échange, tout cela se calme. Les conflits perdurent, mais
c'est
le temps de partager,
le temps
de se nourrir, c'est un moment hors du temps qui permet de se poser. Et je pense que notre métier est extraordinaire puisque c'est l'endroit le plus civilisé du monde, c'est certainement la table, puisque pendant le temps du repas, on partage et on converse. Un délicieux moment. Nous sommes des marchands de bonheurs éphémères. C'est pas commun de pouvoir faire dire ça et faire ça.
C'est vrai. C'est vrai. Et en fait, c'est vrai que ce qui me semble assez surprenant, c'est tout ce que vous savez et tout ce à quoi vous faites attention.
Tout ce que je ne sais pas encore, ce qui m'intéresse.
Ouais.
Parce que je sais.
Mais alors, est-ce que vraiment, c'est uniquement, et c'est déjà beaucoup, mais par l'expérience que vous avez acquis toutes ces connaissances, parce qu'en fait ce que vous me décrivez sur le consommateur d'aujourd'hui, etc., c'est presque sociologique.
Oui,
voilà. Est-ce que à côté vous potassez, est-ce que c'est vraiment purement l'expérience qui vous...
Je regarde le monde avec une grande curiosité, un grand appétit. J'étais à New Delhi dans la rue il y a 2 mois. C'est très différent que la haute gastronomie que je délivre à Versailles, mais tout ça m'intéresse parce que il faut se nourrir, bien ou mal, tous les jours, puisque c'est l'essence de la vie pour nourrir l'individu, pour lui permettre d'avancer. Et ensuite, si c'est bon, c'est mieux. Si c'est très bon, c'est encore mieux. En tout cas, il faut que ce soit bon pour la santé de l'individu. Je défends l'idée qu'il faut se nourrir mieux, parce que quand on se nourrit mieux, c'est aussi bon pour la planète. C'est bon pour soi, mais c'est bon pour la planète. Donc c'est cette notion,
c'est vertueux,
ça
ouais.
va au-delà de bien ou mal. Et puis, ce n'est pas une question d'argent de bien manger, c'est une décision, parce que si on mange un plat de céréales, modeste céréales, parfaitement assaisonnées, ça suffit pour satisfaire aux besoins quotidiens pour nourrir le corps humain. Mmh. Après, bien sûr, il y a des échelles, mais tout m'intéresse, de nourrir le plus modestement possible, sainement, jusqu'à la haute gastronomie. Tout ce spectre-là de mon industrie m'intéresse, aujourd'hui, nous faisons des biscuits, des chocolats, du café. Nous ferons d'autres métiers demain, mais toujours avec le souci d'éthique, de durable, je dirais d'éthicable. Mmh. Éthique et durable, éthicale. Voilà. Donc, nous ne sommes pas uniquement des excellents professionnels. Nous avons l'attention portée à la santé de l'individu et à la santé de la planète. Une cuisine bonne à penser avant d'être bonne à manger. Il faut manger en conscience. Tout le monde a son mauvais goût. Mm. On a le droit d'avoir mauvais goût, ou de manger mal. Mais ce n'est pas bon pour soi et ce n'est pas bon pour la planète, généralement. L'un va avec l'autre.
C'est sûr, il y a une éducation, je pense, à faire. Et c'est ce qui est en train de se faire. Il y a un peu deux mouvements qui se développent, les deux extrêmes. Mais vous parvenez, je trouve, à un équilibre
Tout le monde, c'est arrivé dans l'esprit de tout le monde. Après, chacun doit faire sa part.
Oui.
Si chacun fait une petite part tous les jours, ça va aller mieux. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas encore décidé de faire sa part. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je défends l'idée qu'il faut manger moins de protéines animales pour la manger de meilleure qualité en moins de quantité. Pour que le revenu de l'individu qui élève, qui cultive, qui ramasse, permette de vivre correctement de son travail, de son labeur. Pour ça, il faut décider de manger différemment, en fait.
Et c'est une décision, tout à fait.
Moins, mais mieux, moins souvent. Moins, mais mieux, moins souvent. La protéine, c'est moins... mieux, moins souvent. Et ça ne coûte pas plus cher.
Et là, on a parlé pas mal de vos succès, de vos réussites. Il y a eu peu d'échecs, Moi, vous voulez nous en parler ?
Non, il y a des échecs parce que de l'échec, on apprend. On essaye beaucoup de choses, on ne réussit pas tout, mais en tout cas, on essaye.
Au moins, c'est la preuve qu'on a essayé, quoi.
On essaye. On a bientôt tout essayé, on n'a pas tout réussi.
Je sais que notamment à New York, du coup, vous en parlez, vous êtes arrivé, on va dire, un peu trop tôt, quoi, avec la proposition que vous aviez. Quels enseignements vous en avez tirés de cette expérience à New York ?
Bah, il faut pas avoir raison trop tôt. On paye. Mais j'ai eu raison, puisque j'ai appris qu'il ne faut pas avoir raison trop tôt. Et là, on est sur un dossier, on a raison trop tôt, je suis quasiment certain qu'on a raison trop tôt. On ne va pas en parler là, parce que j'ai une réunion de tout à l'heure. On va prendre une décision, on en reparlera dans 5 ans. On aura raison dans 5 ans, mais là, je pense qu'on a raison trop tôt.
Il faut savoir le réaliser, quoi.
On a fait quand même. C'était bien de l'avoir fait. On n'a pas perdu beaucoup d'argent, on a perdu un peu d'argent. Voilà, on va certainement arrêter cette petite activité. C'est trop tôt.
Mais donc, vous avez vraiment cette vision de l'entrepreneuriat.
Il fallait le faire, mais c'est trop tôt.
Vous avez cette vision de l'entrepreneuriat où, en fait...
Oui, on prend le risque.
Win some, lose some, je crois que c'est ça l'expression en anglais. Et ça, je pense que c'est ce qui, en effet, fait peur à pas mal de gens, quoi, de se dire...
C'est ce que je retiens de l'Amérique. En Amérique, on essaye. Donc j'ai appris ça, l'Amérique, on essaye. Bon, on se trompe, on recommence. Quoi. C'est ce que j'ai appris. Nous, les Français, on est un peu plus... on veut s'assurer que ça va marcher. Mais ça ne marche pas à tous les coups.
Et ça, il faut l'accepter.
Bon, j'ai un peu l'esprit...
Américain là-dessus, l'état d'esprit,
On ne réussit pas tout, mais bon, on essaye tout, ouais.
Je me posais aussi la question, comme vous faites aujourd'hui beaucoup d'activités, et bon, on peut les rappeler, on va voir si jamais j'ai bientôt retenu dans le livre. Donc il y a toutes les manufactures, il y a tous vos restaurants, Il y a l'école.
Les écoles. L'école, faire école. Voilà. L'enseignement, l'éducation.
L'éducation, les livres.
On fait du conseil, on est éditeur aussi. Ouais.
Éditeur. Et donc, bon, les collectionneurs, on en parlait aussi un peu avant.
C'est un réseau.
Voilà, un réseau d'hôtels. Vous êtes auteur aussi.
Oui.
Comment est-ce qu'on fait pour ne pas sacrifier la qualité quand se déploie la quantité ?
En faisant confiance à des collaborateurs qui, à leur tour, vont prendre la responsabilité de faire mieux que moi. C'est... Mes chefs aujourd'hui, ils sont meilleurs que moi puisqu'ils s'entraînent tous les jours. Donc ils affinent le trait tous les jours. Voilà, c'est de transmettre l'idée que quand on est un acteur au meilleur niveau. Et mon chef à Monaco, il est meilleur que moi. Mes chefs à Paris sont meilleurs que moi. Mon chef à Kyoto, il est meilleur que moi parce qu'il s'entraîne tous les jours. Il a cette volonté de démontrer qu'il est au meilleur niveau. Et le Quentin, mon chocolatier, pareil. Flora, elle me fait des biscuits extraordinaires. Matteo, il me fait des glaces extraordinaires. Donc, ils sont en charge, ils sont responsables, ils sont jeunes, ils sont dynamiques. Je leur ai inculqué l'idée qu'il fallait s'améliorer tous les jours. Ne pas imaginer qu'on est arrivé quelque part. On n'est arrivé nulle part puisqu'on peut monter d'une marche supplémentaire. Ce n'est jamais assez bien. On peut toujours affiner le trait. On peut toujours mieux faire. Et quand on pense qu'on est arrivé au meilleur niveau, il est une certitude, c'est qu'on peut encore aller plus loin.
C'est sûr.
C'est ça que je réinculque en fait. Donc il y a une espèce de compétition entre eux, ils sont en compétition. C'est celui qui veut m'étonner le plus, qui va affiner le trait encore plus. Voilà. Donc je pense qu'on a généré, on a fait école pour ça. Voilà. L'entreprise est en compétition. Ils sont en compétition, ils se connaissent tous. Hein. Le chef de Benoît Tokyo, il connaît le chef de Benoît Kyoto. Ils se sont parlé, ils se sont croisés. Voilà. Donc c'est une espèce d'émulation d'un vivier de jeunes collaborateurs. Et puis aujourd'hui, le vivier, il est de 25 à 85% de mes collaborateurs, acteurs. Ils ont entre 25 et 40, 45 ans. Je crois beaucoup à cette génération de trentenaires, en fait.
Et vous avez dû, là aussi, peut-être faire des erreurs, parfois, dans les recrutements. Est-ce qu'après coup, vous en avez tiré des conclusions ? Parce que c'est difficile, je trouve, de bien recruter, en fait. C'est qu'on peut former du mieux qu'on peut.
Oui.
Ça fait une grosse partie du travail. Mais parfois, en fait, c'est peut-être pas ce qu'on imaginait. Est-ce que vous êtes rendu compte de ce qui avait péché les fois où vous vous êtes trompé ou que c'était pas ce que vous imaginiez ?
Alors, j'ai beaucoup confiance. Et certains collaborateurs m'ont dit, je vais pas y arriver. Je dis, moi, je sais que tu vas y arriver. Alors, des fois, on se trompe parce que c'est trop tôt. Encore une fois, c'est trop tôt, mais il faut redescendre et remonter. Mais on ne se trompe pas souvent avec un jeune, on ne se trompe pas souvent. On peut se tromper quand on prend quelqu'un d'expertise, parce qu'un jeune, on peut l'orienter, on peut l'accompagner. Une personne d'un certain âge, ce n'est pas facile à réorienter, parce qu'il a des acquis, il a des habitudes. Le mot habitude, c'est souvent synonyme de mauvaises habitudes. Il n'y a pas de bonnes habitudes qui s'inscrivent durablement. Il n'y a que de mauvaises habitudes qui persistent. Et quand un collaborateur me dit, nous avons l'habitude de faire comme ça, je dis, c'est certainement le moment d'en changer, prendre des risques, prendre d'autres routes que celles habituelles. Mais c'est ce que je dis depuis. C'est ce que je dis et ce que j'essaie de faire, de jamais s'arrêter. Quand on croit qu'on est arrivé à un endroit, il s'agit de savoir si on peut prendre une autoroute pour s'améliorer, pour changer, pour évoluer, pour remettre toujours au goût du jour. Ce que l'on fait aujourd'hui, ce que l'on fait aujourd'hui ici, ça sera mieux dans un an ou dans deux ans. Ça sera différent. Mais ça permet au jeune Alessandro ici, dans ce salon de manufacture, qui fait une proposition culinaire qui n'est pas un déjeuner, qui n'est pas un dîner, c'est sa signature. Donc l'exercice que j'ai demandé ici, c'est de servir une glace ou un sorbet avec chaque plat salé. C'est pas évident. Il fallait. Je ne pensais pas qu'il allait y arriver. Eh bien, il y est arrivé. Voilà. Il est un expert des glaces et des sorbets avec de la cuisine salée. Avec chaque plat, nous servons glace et sorbet.
C'est impressionnant.
Ouais. Donc, avec du poisson. Hein.
Je viens de tester, poisson, là, parce que ça m'intéresse.
Alors, est-ce qu'on a raison trop tôt ? On ne sait pas.
C'est sûr. Peut-être, mais il faut essayer.
Oui.
Mieux vaut avoir. Est-ce que vous pensez que mieux vaut avoir raison trop tôt que mieux vaut avoir raison trop tard ?
Je préfère avoir raison trop tôt.
Ouais. C'est ça.
Je n'aime pas suivre, je préfère anticiper. Je préfère ouvrir des voies que de suivre.
Et vous parvenez à être satisfait tout en ayant toujours cette fin d'aller plus loin parce que je trouve que c'est l'écueil dans lequel on peut tomber. Oui, mais ça, c'est dommage, je trouve.
Je ne suis jamais satisfait parce que je sais qu'on peut aller encore plus loin. J'ai beaucoup de bonheur à savoir où on est, mais je me dis, je suis toujours très frustré parce que je sais qu'on peut aller encore plus loin.
Donc pour vous, c'est sain de ne pas être satisfait, enfin, dire, on devrait rechercher ça ?
Je suis toujours persuadé qu'on peut aller plus loin. Je suis satisfait, mais je sais qu'on peut aller plus loin, partout.
Bah, ça fait une parfaite transition avec... Attendez, je crois que je l'ai coché. C'était page 115, oui. Mais ce qui l'emporte sur la joie, la fête, les promesses tenues, dès que je raccroche, ce sont ces questions. Et maintenant, et après ?
Ouais, c'est toujours pareil.
Ouais, qu'est-ce et que vous, faire après ? Vous parvenez à y répondre ?
Oui, oui, oui. Je sais jusqu'où je peux pousser le biscuit et on va démarrer, nous allons devenir des charcutiers de la mer et jardin marin. Ma prochaine obsession, c'est de regarder le végétal marin, les légumes de la mer et les poissons que nous n'avons pas encore mangés. Soit des poissons de profondeur, soit des poissons qui sont rejetés, soit des petits poissons qu'on rejette. On consomme très peu des ressources halieutiques qui se font de plus en plus rares, donc il faudra consommer différemment. Je ne sais pas si on va y arriver. En tout cas, je suis intimement convaincu que nous allons arriver à nourrir avec des produits de la mer dont on ne connaît pas encore l'immense capacité pour nourrir des populations, incluant les légumes marins, les algues, les plantons, etc. On travaille, donc je pense que c'est entre 10, 12, 14, 15 mois, on aura très certainement des points où on pourra manger des produits qu'on ne mange pas aujourd'hui. C'est le pari.
Ouais, bah écoutez, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des chefs.
Collaboratrice qui n'a rien à voir avec ce métier. Je trouvais qu'elle avait de l'appétence pour le sujet. Elle est rentrée dedans. Voilà, donc elle travaille maintenant depuis 5 semaines. Donc on va faire un point toutes les semaines, un point d'avancée. On va y arriver. C'est une décision, on a décidé d'y arriver, donc on va y arriver.
Ça ressemble à quoi, en gros, hein, j'allais dire vos journées, mais peut-être vos semaines, parce qu'à mon avis, ce sera plus représentatif. Comment est-ce que vous parvenez à partager votre temps ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vous qui le décidez ? Est-ce que c'est vos équipes ? Est-ce que c'est...
En fait, j'ai à la fois beaucoup d'obligations et je manquerai peu. Puis comme ça, ça me laisse l'opportunité de faire au gré des besoins.
Au jour le jour, presque.
Ouais, au jour le jour, voilà. Ouais. À la semaine, en tout cas.
Okay.
Demain, je vais à New York. J'ai repris des voyages. Les voyages me nourrissent. Les voyages m'étonnent. Les voyages me font prendre conscience que finalement... On croit qu'on est bon, mais on n'est jamais aussi bon qu'on le pense. On n'est jamais aussi mauvais qu'on le croit, mais on n'est jamais aussi bon qu'on le pense. Donc, je dis à mes collaborateurs, ne pensez pas que vous êtes les meilleurs, parce qu'à côté, les gens avancent. La tendance, ici, c'est de dire on est le centre du monde. Non, on n'est pas le centre du monde. Le centre du monde s'est déplacé partout. Chacun a préempté l'idée qu'il pouvait faire la cuisine mieux que nous. Donc, la connaissance est la chose la plus partagée du monde, contrairement à la pauvreté. La pauvreté, la connaissance, tout le monde peut y accéder. Donc tout le monde a appris et tout le monde a préempté notre industrie comme un atout supplémentaire pour faire venir des clients. Donc les pays nordiques, les pays du Sud, enfin tout le monde, la gastronomie, tout le monde dit nous sommes en compétition. Nous sommes en compétition. Est-ce que nous sommes les meilleurs ? Oui, nous avons une meilleure histoire. Mais d'une meilleure histoire, ça pourrait faire qu'on pourrait se reposer tranquillement sur le passé.
Ouais.
C'est surtout pas ce qu'il faut faire. Il faut rester vigilant. La compétition est interplanétaire. Enfin, tout le monde a décidé, dans notre industrie, d'être le meilleur. Donc, et c'est vrai. Et d'ailleurs, à l'école de Meudon, nous avons 74 nationalités. Ils vont rentrer dans leur pays. Ils auront acquis un bagage. Ils auront une boîte à outils pour faire la cuisine qu'ils vont adapter à leur pays. Ils vont s'améliorer. Nous participons au rayonnement culturel français, l'ombre portée économique de ce que ces jeunes vont apprendre. Ils vont importer des vins français, ils vont acheter des arts de la table à français, ils vont acheter certainement la cristallerie française, etc., quand ils vont rentrer dans leur pays. Donc c'est l'ombre portée économique de ce que nous apprenons au travers de nos écoles est très important. Nous apprenons la cuisine française à New Delhi, ce que nous apprenons aux Philippines, au Brésil, au Moyen-Orient bientôt. Enfin, voilà. Donc nous sommes très généreux parce que je considère que partager ce que l'on sait... C'est certainement ce qui m'anime le plus, et continuer à évoluer pour pouvoir redonner ce que j'apprends, ce que je vois dans le monde, c'est pour le redonner d'abord dans mes restaurants et ensuite en contenu pédagogique. C'est une quête permanente. Et quand on a donné, quand on a édité, ça nous oblige aussi à créer d'autres choses. Quand on a délivré les encyclopédies, donc on ne peut pas délivrer la cuisine des encyclopédies 20 ans plus tard, donc on est obligé... de continuer à créer sans cesse.
Est-ce que vous gardez du temps, entre guillemets, obligatoire, presque réservé justement à cette réflexion créative ?
Non, je prends un bout de papier, je note. C'est pas... Quand il faut délivrer quoi ? C'est l'angoisse de la page blanche. Hein. Quand on dit on va faire un restaurant, on fait quoi ? Donc, j'écris à coup. Je jette des idées, qu'est-ce qu'on va faire à tel endroit ? Et après, on a des collaborateurs nombreux, divers, variés, qui participent à un projet. Il y a une personne qui s'occupe des arts de la table. Enfin, on a des équipes, je ne suis pas tout seul, nous sommes nombreux.
Vous choisissez quand même la déco de vos manufactures, apparemment.
Oui, oui.
Donc vous êtes quand même polyvalent.
Oui.
Je me demandais aussi...
Moi, j'ai fait tous les métiers que nous animons aujourd'hui. J'ai fait des biscuits, j'ai fait des chocolats, voilà. J'ai abordé tous les métiers.
Et c'est important pour pouvoir bien déléguer, quoi.
Ce qui m'autorise à pouvoir dire, moi, je pense que la ganache, elle est trop molle, ou elle est trop alcoolisée, ou elle est trop dure, ou le talon du chocolat est trop épais. Voilà, j'ai fait tout ça. J'ai abordé tous ces métiers. C'est ce qui m'autorise à avoir une remarque pertinente parce que je suis allé goûter ailleurs des chocolats. On a appris le chocolat en Italie, on a appris le chocolat en France, on a appris le chocolat au Brésil, on est allé voir les récolteurs de cacao dans des forêts primaires au fin fond du Brésil. Pourquoi la macération de ces fèves de criollo au fin fond du Brésil est meilleure parce que le chef de production est un gars qui a du talent, c'est séché au soleil, c'est une chaîne du cacaoyer jusqu'à mon bonbon dans la boutique, là, en dessous.
C'est voilà. Fait chez vous.
Il y a des, je sais pas combien d'interventions d'individus et chacun a fait sa part. C'est pas de hasard si le bonbon est bon puisque chacun a fait sa part d'excellence.
Mais il faut trouver les collaborateurs excellents à chaque maillon de la chaîne.
Il faut le décider d'abord. D'abord il faut le décider et après l'avoir décidé intervient le labeur, le travail.
C'est vrai.
Trouver du plaisir dans le labeur, dans le travail, etc. Mmh. Pour dire ce bonbon, ça a commencé là. Le praliné qui est...
on sait d'où viennent
les amandes, les noisettes.
Bon.
On sait comment on le concasse. On va cuire le sucre au meilleur niveau. Parce que quand on cuit le sucre au meilleur niveau, ça désucre. Enfin, un sucre très cuit, il a peu le goût de sucre. Donc voilà, donc on est obsédé par l'ensemble des ingrédients qui participent à faire qu'un bonbon, il est au meilleur niveau. Parce qu'il y a un process artisanal d'hommes et de femmes qui sont intervenus dans chaque étape. Il n'y a pas de hasard, en fait. Il y a une compilation de détails, d'individus, d'hommes et de femmes qui font que ce bonbon, il est extraordinaire. Il est conservé à une hygrométrie 50 degrés, 17 degrés de température, etc. Donc, voilà, donc on va torréfier dans Paris des fèves qui sont sélectionnées, qui sont triées, etc. Dont on connaît le producteur.
C'est de l'art, en fait.
Non, mais il n'y a pas de hasard. Non, il y a beaucoup de travail. C'est une
décision.
Mais
l'art, c'est aussi du travail.
Oui, mais ce n'est pas de l'art, c'est de l'artisanat.
De l'artisanat, c'est vrai.
C'est du haut artisanat. Nous sommes des interprètes de la générosité de la nature. Si le cacaoyer dans les forêts primaires, si la fève n'est pas ramassée à la parfaite maturité, si le cacao est ramassé à la parfaite maturité, on n'a pas besoin de sucre. On a besoin de moins de sucre, et il sera délicieux. Donc ça, c'est une décision. Donc nous sommes des artisans chocolatiers.
Vous êtes aussi quand même un homme d'affaires, on peut dire, redoutable.
C'est moi qui fais les affaires.
C'est pas vous ?
C'est les équipes.
C'est les équipes ? Ok. Parce que j'allais vous demander comment vous étiez devenu si bon en affaires. Quoi.
Non, moi je fais que la créa. Oui.
D'accord, ok.
Ça fait 25 ans que je n'ai pas signé un contrat, que je n'ai pas signé un chèque.
D'accord.
Ça ne m'intéresse pas.
Ouais.
Par contre, j'ai des équipes pour le faire.
D'accord.
J'ai beaucoup de femmes. Ma présidente est une femme. Ma DRH est une femme. Enfin, je suis entouré de... Ma CEO est une femme.
Beaucoup de femmes compétentes, ce qui vous entoure. Mais c'est venu de vous, quand même. J'imagine l'envie de développer. Enfin, voilà.
Bien sûr.
L'hôtellerie, tout ça, ça vient de vous. Mais donc, en fait, vous avez juste, entre guillemets, les idées. Et après, la partie
business. Des intuitions.
C'est les gens qui les développent.
J'ai des intuitions. Parce qu'on n'a jamais fait d'études de marché. On n'a jamais dit, on va faire des biscuits, ça va marcher. On sait pas. En fait, on ne sait pas si ça va marcher parce qu'on en avait il y a 5 semaines. Je pense que ça va marcher. Mais on n'a pas fait d'études parce que si on avait dit, on va faire un biscuit de haute qualité, ce qui induit qu'il va être cher. Mais il est d'abord de haute qualité. Donc, est-ce qu'on va vendre des biscuits de haute qualité cher ? Pourquoi ? Oui, moi je suis intimement convaincu que oui, qu'on va réussir à imposer l'excellence et le haut niveau des biscuits haute couture, en fait. En fait, on fait des biscuits haute couture, on fait des glaces haute couture, on fait un café haute couture, pareil pour le chocolat. J'aime bien être dans un univers où on n'est pas nombreux à pousser le détail, là on l'a poussé. Voilà. Quand on se situe au niveau le plus élevé, c'est le moins encombré. J'aime bien
comment vous êtes et ça c'est une réalisation que vous avez depuis toujours?
Oui, une conviction
que vous avez depuis toujours. Est-ce que vous avez parfois douté de vos capacités?
Vous êtes toujours en doute?
Bah parce qu'on a l'impression que
ça nourrit
le risque.
Non, mais le doute, c'est. Bah oui, bien sûr, je suis en doute. Je doute toujours. Est-ce que j'ai fait le bon choix?
Mais le doute ne vous empêche pas d'avancer. Ouais. Vous ne le laissez pas vous paralyser.
J'ai pas peur du risque. D'ailleurs, dans une de mes valeurs du groupe, c'est ne pas craindre et entreprendre. Ne pas craindre et entreprendre. On n'a pas peur. On entreprend.
Ne pas craindre et entreprendre, c'est ça le mantra.
Ne pas craindre et entreprendre. Mais c'est une des 12 valeurs. Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Une des valeurs.
Qui est-ce que vous admirez aujourd'hui?
Qui? Bah, celui qui essaye d'aller plus loin. Moi, je trouve que Elon Musk est un génie contemporain. C'est un grand rêveur et il réalise ses rêves. L'idée, c'est de transformer ses rêves en réalité. J'admire celui qui va refaire voler un avion, je sais pas, est-ce qu'il y a un avion qui va revoler à Mach 2 comme faisait le Concorde? Oui, certainement. Donc j'aime bien les gens qui recherchent. J'aime beaucoup les ingénieurs qui ont fait le bateau, j'ai visité la salle des machines du commandant Charcot, qui est un bateau électrique à double coque qui va sur le pôle Nord géographique. Donc c'est nous qui faisons la nourriture à bord, la salle des machines, l'ingénieur qui a eu la vision de faire ce bateau de 100 cabines électriques avec double coque, qui va se faufiler entre les icebergs pour prendre conscience que la planète est en train de fondre, que la chaleur est une réalité. Bon, c'est un bateau à double coque qui ne va pas casser les glaciers, mais qui va plutôt glisser dessus pour aller voir ce qui se passe. Et ce qui se passe est dramatique. Donc, le gars qui a conçu la salle des machines, c'est d'une beauté. Il y a 50 tonnes de batteries, des centaines de tonnes de gaz compressé, d'hydrogène pour se rendre sur ces sites-là. Oui, j'aimerais bien avoir ce talent que je n'ai pas. J'en ai d'autres, mais je n'ai pas ce talent.
Vous admirez les visionnaires, en fait.
Oui, bien sûr.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inspiration à tirer. Vous en parlez aussi parfois, mais vous avez un accident d'avion, je crois que c'était en 84. Je me demande comment ça a façonné la suite de votre parcours. Parce que vous étiez déjà cuisinier à l'époque. Vous avez repris après.
Je ne savais pas faire d'autre chose. Donc j'ai continué à penser la cuisine, de mon lit d'hôpital. J'ai continué à écrire des cartes, à surveiller, imaginer les recettes. Voilà. Donc c'est ce qui m'a permis de pouvoir dire oui, je peux faire mon métier uniquement en le pensant et en transmettant à des collaborateurs précieux qui, eux, avaient la capacité physique de continuer à faire la cuisine à ma place. Voilà. Ça m'a donné un déclic, oui, effectivement.
Et psychologiquement, parce que je me demande quand même, vous étiez, je crois, le seul survivant, etc. C'est quand même très difficile. Comment vous êtes parvenu à remonter la pente, en fait, tout simplement?
Est-ce que
vous
avez... Une décision du matin. Un matin, j'ai dit, je vais oublier ce que j'ai vécu. Je vais oublier. Après avoir pris pendant des mois et des mois des piqûres, des témestats, des machins, enfin, des trucs pour... Un matin, il faut dire, c'est bon, ça va. On va débrancher les traitements.
Et vous pensez que la seule décision suffit?
Moi, j'ai pas été accompagné, puisque à l'époque...
Ouais, c'est vrai. C'était tabou, presque.
Oui, accompagné, je me suis démerdé, quoi. J'ai remarché, j'ai revu, je suis allé me faire opérer des yeux, je suis allé me faire...
Et vous vous êtes pas dit à ce moment-là... Enfin si, en fait, j'ai l'impression que vous avez dit à ce moment-là, rien n'est impossible, en fait.
Je le dis dans le livre, c'est l'incapacité physique ou intellectuelle d'être autonome qui vous handicape. Sinon, il y a des solutions. Si vous n'avez pas l'incapacité physique ou intellectuelle, vous êtes valide, donc vous devez pouvoir vous débrouiller. Seules ces deux incapacités, l'une ou l'autre, ou les deux, vous permettent d'être désocialisé. Moi, j'ai été désocialisé, d'accord?
Vous étiez seul pendant un an, en fait.
Oui, non mais...
J'imagine que vous aviez de la
garé,
visite, mais...
Garé. Non mais... C'est-à-dire, il n'y a plus que la famille, mais la famille a dit, bon, on va en faire un légume, quoi. Enfin, il va faire quoi? C'est comme ça. Et après, petit à petit, moi, je n'ai jamais eu conscience que j'étais en cet état. C'est une chance de dire...
C'est vrai.
Est-ce qu'il va remarcher? Est-ce qu'il va revoir? Oui, j'ai remarché, j'ai revu. Je n'ai jamais accepté ma condition.
Et vous pensez que ça, c'est un rôle dans, dans votre guérison, le choix?
Ne pas croire que vous êtes dans l'état dans lequel vous êtes.
Mmh.
Après, les amis vous disent, tu te rends compte? Moi, je t'ai vu en chaise roulante, je ne savais pas si elle marchait. Tout le monde disait, le pauvre, il va jamais... Il va y rester en sa chaise roulante. Je n'ai plus en chaise roulante, j'ai revu. Je crois que ça a beaucoup aidé et participé à ma restauration.
Ouais. Et vous parlez dans votre livre des décisions du matin, un peu de ces éclairs parfois qui vous viennent et sur lesquels vous ne revenez pas. Est-ce que c'est quand même le fruit d'une réflexion ou c'est vraiment un jour vous réveillez?
Oui, c'est le fruit d'une réflexion. C'est-à-dire, mais à un moment donné, on y va ou on n'y va pas. Est-ce qu'on va faire des biscuits? Pourquoi on va faire des biscuits? Je dis, on va faire des biscuits, on va les cuire là, on va les faire là. D'ailleurs, la boutique existe, est-ce qu'on a raison? Je ne sais pas, mais en tout cas, on pousse la porte, ça y est, on goûte, on l'a fait.
Vous, en fait, j'ai l'impression que votre mantra, c'est aussi un peu mieux vaut avoir des remords que des regrets.
Oui.
Vous préférez toujours faire que vous dire si j'avais fait. Est-ce que vous avez quand même un remords? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez lancer que vous n'avez pas fait?
Non, pour l'instant, non.
Pour l'instant, non. Bah, c'est quand même cool de pouvoir dire
pour
ça. J'espère que ça inspirera nos auditeurs et nos auditrices.
Non, pour l'instant, non. Il faut faire ce qu'on a envie de faire. Il faut essayer, en tout cas.
Ouais.
Parce qu'on apprendra toujours, même de ces échecs. On n'a jamais perdu puisqu'on apprend.
En fait, je pense qu'il faut apprendre à voir la vie comme une succession, enfin comme un apprentissage, plutôt que comme la poursuite de la réussite. Parce qu'au fond, c'est quoi la réussite? C'est quoi la réussite pour vous?
Rien, de pouvoir rencontrer qui on veut, quand on veut, comme on veut. Aujourd'hui, j'ai une liberté totale, puisque si j'avais pas de clinique, j'aurais été voyageur ou aventurier ou architecte ou designer. Aujourd'hui, je fais tout ça. Donc, j'ai pas envie de faire autre chose. Je ne sais pas faire autre chose, mais je me nourris de ce que je vois, je m'enrichis de mes rencontres, je goûte ce que je n'ai pas encore goûté, et je suis dans cette quête permanente de rencontres. Donc, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai pas de besoin particulier. Je n'ai pas de besoin.
Donc, pour vous, la réussite, c'est faire ce qu'on aime ou ne pas avoir de besoin?
À faire ce qu'on aime. Et gagner sa vie pour pas avoir de besoin.
Ouais.
Besoin, j'ai pas de besoin, pas de besoin démesuré. Donc,
c'est une forme de liberté.
Les deux choses les plus précieuses, c'est la santé et la liberté d'agir et de faire ce qu'on veut. C'est la santé, la liberté d'agir, de penser. Liberté d'agir et de penser. Et de se mouvoir à son gré. De rencontrer qui on veut à peu près. Je rencontre à peu près qui je veux.
Est-ce que vous pouvez nous parler d'une rencontre qui vous a marqué peut-être ces 10 dernières années?
L'intelligence du président actuel.
Ok.
L'intelligence du président actuel, la vivacité d'esprit.
Et ça, c'est vrai que c'est assez...
Après, parce qu'on dit toujours en critique.
C'est vrai.
Remplacer par qui demain matin? Demain matin, donnez-moi un nom. Et là, personne ne m'a encore répondu. je dis demain matin... Qui prend le job? Là, j'attends toujours la réponse. Et je fais toujours le même truc. Je dis, et alors qui demain matin? Demain matin, je suis plus confortable que ce soit lui encore.
C'est toujours plus facile de critiquer que de faire.
Non, mais...
Ça, c'est sûr. Vous arrivez à vous en prémunir des critiques?
Il faut essayer de ne pas les lire, parce que quand c'est bien, ce n'est jamais aussi bien qu'on le dit, et quand c'est mal, ce n'est jamais aussi vrai que c'est écrit.
Donc c'est votre stratégie, quoi.
Donc,
ouais.
Il faut que ça glisse sur ses plumes. Quoi. Je m'habille en canard, je mets un manteau de canard, comme ça glisse sur mes plumes.
On va tous aller chercher ce costume, comme on en a bien besoin. J'ai quelques petites dernières questions pour vous. Déjà, si vous aviez une ressource à nous conseiller, alors ça peut être un livre, un film, j'ai même envie de dire un restaurant pour vous, qu'est-ce que ce serait?
Une ressource?
Ouais.
Un jour, mais il y a une origine, il y a une histoire à cela.
Ah, vous pouvez nous la raconter.
Ouais, encore une histoire. Un jour, j'ai une assistante à Londres qui me dit, j'ai rencontré, lors d'un dîner, un jeune cuisinier japonais de cuisine shojin, c'est-à-dire la cuisine végétalienne des temples traditionnels de Kyoto. À Londres, elle me dit, écoutez, il a un restaurant à Kyoto, tout petit restaurant, je suis sûr que la prochaine fois que vous allez au Japon, vous devriez y aller. D'accord? Ok. Donc je dis à mon bureau au Japon, la prochaine fois, il s'appelle Fabrice, je lui dis, Fabrice, la prochaine fois je viens à Tokyo, je vais aller à Kyoto et on va dîner là. Bon. Il fait la réservation, j'y vais quelques semaines plus tard, et on est dans la banlieue de Kyoto, et Fabrice me dit, c'est Ducasse, c'est une blague, votre adresse n'existe pas. Ok, on a fait une réservation, on est devant un garage, l'adresse, c'est devant un garage, j'ai dit Fabrice. Je suis sûr, et je vais taper au garage, et c'est une porte de garage, et j'ouvre la porte, et là, il y a un gars qui m'attend, ce cuisinier qui s'appelle Toshio, un cuisinier quasi traditionnel végétalienne. Et là, on est deux. Fabrice, mon directeur de bureau, et moi, et on s'installe. Il y a une table de quatre, mais on est deux. Donc il nous attend pour faire un déjeuner extraordinaire. Déjeuner végétalien. Je fais un déjeuner de contraste, de température, de goût, d'esthétique, de saveur, de différence. Et très simplement, je suis séduit par ce que je ne connais pas. Toutefois, ce jeune cuisinier, il savait qui j'étais. Bien que mon bureau ne lui ait pas dit, mais bon, il avait dû taper sur Internet, Ducasse, etc. Donc, on commence par une bouteille de Dom Pérignon. Donc, et on est dans un garage à Kyoto. Quoi. Et là, on fait...
C'est loufoque.
Donc, oui. Et donc, à la fin du déjeuner, qui est extraordinaire, je dis à mon directeur de bureau... Je dis, je veux demander lui comment il vit. Donc, ben, il ne vit pas. Nous sommes ses derniers clients. Nous sommes ses derniers clients. Il ferme après. Quand on sort, il ferme. Et je dis, il va faire quoi? Il va voir un ami japonais à San Francisco. Il va lui rendre visite. Il dit, OK. Et après? Parce que moi, j'ai déjà une idée. Je dis, et après, il va faire quoi? Je lui dis, Fabrice, je ne quitte pas ici tant que je ne l'ai pas engagé. Puisqu'il n'a plus de travail, il ne sait pas quoi faire, etc. Je veux l'engager. Donc, il va à San Francisco avec son copain, il a l'avion dans 3 jours. Je lui dis, OK, après San Francisco, il fait quoi? Je lui demande. Et donc, je sors une heure après, en ayant la certitude que ce garçon va venir travailler avec moi à Paris. Et j'ai déjà l'idée de faire naturalité, 2014. Mais lui, il m'a enrichi de la capacité de dire on peut aller plus loin que naturalité, on peut aller au vegan. On peut tout enlever, il ne reste rien, il ne reste que du végétal. Eh bien, ce garçon, dans sa radicalité, tout ça par un fait de hasard, m'a donné la certitude qu'on pouvait faire très très bon que du végétal. Et je vais plus loin. Donc, naturalité est née de ce coup de booster en disant on peut faire du végétal, on peut faire de la gastronomie en utilisant très peu de protéines animales issues de la mer, de poissons de pêche durable ou dont on connaît parfaitement la période de reproduction, si possible de poissons pas nobles, de poissons bleus, etc. Donc on peut faire cette gastronomie de très haut niveau. Et donc lui, il m'a donné une espèce de il m'a perturbé dans c'était la cuisine traditionnelle des temples végétaliens de Kyoto. Voilà. On n'a pas pris de recette. On a compris qu'avec des racines, tout ce qui poussait sous la terre, tout ce qui poussait sur la terre, on pouvait utiliser tout. On peut utiliser les racines d'endives qui restent dans la terre normalement. Les racines d'endives, c'est meilleur que les endives elles-mêmes. Les racines d'endives, elles sont amères, très amères. Mais en fait, dans la culture des endives, pour en produire plus, les endives ne sont plus amères, alors que l'endive, elle est amère. Qu'est-ce qui est amère? Les racines. Donc on utilise les racines. Les épluchures dont on fait des bouillons. Tout ce qui pousse dessus, dessous. Donc, on a appris qu'on pouvait tout utiliser. Ensuite, on a appris à piler tout ce qui poussait au-dessus de la terre pour en faire avec des mortiers à picots qui donnent un gluant au condiment. On a appris ça. On n'a pas pris de recette. On a appris le sentiment et on a enrichi notre cuisine. C'est-à-dire, la cuisine, c'est pas strat. Est-ce que Ferran Adrià a apporté quelque chose? La réponse est oui. Dans les strates de la connaissance culinaire mondiale, Ferran Adrià a apporté 3%. Ce cuisinier... il a apporté 2%. Voilà. C'est des strates qui s'enrichissent. Donc l'idée, c'est d'être toujours à l'affût de ce que je vais découvrir. J'ai mangé à Tokyo, j'ai fait un très très délicieux repas chez Okuda, qui est aussi installé à Paris. On ne l'a pas bien traité à Paris. Ce garçon a beaucoup de talent, on aurait dû mieux le traiter, etc. Donc tout ça, mon disque dur s'enrichit chaque jour ou chaque semaine d'une expérience que je ne connaissais pas encore. Donc ce qui me permet de dire à mes collaborateurs, quand il fait un plat, je dis écoute, tu devrais mettre ça comme ça. Voilà. Je suis un directeur artistique qui conseille à mes collaborateurs à affiner le trait ou à apporter des ingrédients ou des sentiments culinaires que je viens lui apporter sans qu'il ait besoin de bouger, puisque moi, j'ai la chance de pouvoir voyager, de pouvoir partager généreusement ce que je sais vers le plus grand nombre. Et d'abord, auprès de mes collaborateurs, qui me permet d'améliorer chaque jour ce que je propose dans mes restaurants. Est-ce qu'on est bon tous les jours? Est-ce qu'on est meilleur du tout tous les jours partout? La réponse est non. En tout cas, on a la volonté de progresser chaque jour.
C'est le plus important.
Voilà. On n'est pas les meilleurs du monde, mais en tout cas, on essaye.
Oui, c'est ça votre objectif? Est-ce que vous vous le dites quoi consciemment? Je veux être le meilleur, numéro un?
Non, on ne s'arrête jamais de progresser. La volonté, ce que j'essaie d'injecter auprès de mes collaborateurs, continuer à progresser. Ne croyez pas que vous êtes arrivé quelque part, vous êtes arrivé nulle part. Puisqu'il y a toujours une marge de progression. Il y a toujours moyen de faire mieux que ce que l'on fait. Quand on croit qu'on est arrivé quelque part, il faut avoir la certitude qu'on peut encore progresser.
Pourquoi est-ce que vous aimeriez avoir plus de temps?
De temps. Pour découvrir des choses que je ne connais pas encore.
D'accord. C'est ça qui vous passionne, la découverte?
Uniquement.
En fait, on pourrait vous dire comme un explorateur. Explorateur des saveurs.
Voyageur, explorateur. C'est une obsession.
Ok. Ah, c'est hyper intéressant.
C'est obsessionnel. Hein. C'est un manque de... Je savourer le monde, découvrir le monde, voyager.
Vous y arrivez plutôt bien.
Oui, mais si j'avais davantage de temps, je ferais deux fois plus. Deux fois plus vite.
J'ai deux dernières questions pour vous. Non, on va dire trois. D'abord, si vous pouviez entendre quelqu'un au micro d'InPower, ce podcast, qui est-ce que vous aimeriez entendre?
Obama.
Obama? Ah bon, le mari ou la femme?
J'ai reçu Obama à Washington quand j'avais un restaurant et j'ai reçu Madame sur mon bateau à Paris pour visiter.
Moi, j'aimerais beaucoup avoir Michel Obama. Si vous avez son contact, ça peut se faire.
Je l'ai reçu. C'est moi qui lui ai annoncé que derrière nous, Notre-Dame brûlait sur mon bateau en train de boire un verre.
Oh.
J'avais lancé l'invitation parce qu'elle venait pour son livre. Vous regarderez la date de sortie
de
son livre à Paris.
Ouais.
C'est le lendemain de Notre-Dame. Donc la veille, j'ai invité sur mon bateau. Et mon collaborateur me dit, retournez-vous. Il m'envoie un petit SMS, il me dit, retournez-vous. Notre-Dame brûle, et c'est moi qui annonce à Michel Obama que Notre-Dame était en train de brûler.
C'est un moment historique.
Et d'ailleurs, on est allé avec le bateau, on est allé au plus proche de Notre-Dame. Hein, et le lendemain, on a présenté son livre.
À la Corotel Arena, je crois. Hein. J'y étais.
Et voilà, donc la veille,
D'accord. La veille, elle était avec vous, le lendemain, elle était avec moi.
Vous savez, j'apprends que Michel Obama vient dédicacer son livre à Paris. Et j'appelle un journaliste, je lui dis, un journaliste anglo-saxon, je lui dis, vous devez connaître Michel Obama. Il dit, je ne la connais pas, mais je lui dis, mais vous êtes quand même un grand média anglo-saxon, vous allez me trouver quelqu'un. Il m'a dit, oui, je vous donne un téléphone. Je lance l'invitation, et le gars du cabinet de Michel Obama m'appelle en disant, Michel Obama accepte votre invitation. Et là, c'est comme une surprise. J'avais lancé le truc comme ça.
Bouteille à la mer.
Le gars, il me dit, vous savez, c'est certainement la femme la plus courtisée du monde aujourd'hui. Là, quand elle sort son livre, c'est la femme que tout le monde. Et donc, c'est incroyable parce que je dis, au gars qui est de son cabinet de communication de la Maison Blanche, hein, même si elle a quitté la Maison Blanche à l'époque, mais elle a gardé son équipe, la Maison Blanche. Hein. C'est des fidèles, fidèles d'avant, et ils sont tous de Chicago d'avant.
Ah, c'est fou, ça c'est beau, mais comme un peu garde, fou. Hein.
Donc ils étaient tous à Chicago avec elle quand elle connaît, quand elle rencontre Barack d'ailleurs, toute cette petite équipe-là. Et donc elle dit non, c'est une invitation perso, c'est vous, votre femme, notre petite équipe. Voilà, parce que moi je dis, je vais essayer d'inviter plus largement.
Barack aussi, du coup.
Non, je voulais inviter Madame Macron, je veux dire.
D'accord.
C'est une invitation personnelle, c'est une visite privée. Okay. Voilà, on se retrouve à Michel Obama comme ça. Donc voilà, moi j'avais une passion pour. Et moi j'avais à l'époque, quand Barack Obama est candidat, moi j'ai un restaurant à Washington, à 300 mètres de la Maison Blanche. Donc c'est pour ça que je l'ai croisé, il était candidat, et j'ai croisé Madame quand elle était plus président. J'étais aux États-Unis. J'étais au fin fond des États-Unis le jour de son élection. J'étais en Tennessee, dans un county de Mormons, devant un grand écran, dans un ranch. Et là, dans un ranch en Tennessee, je peux vous dire que quand Barack Obama apparaît sur l'écran, là, les gars de qui étaient avec nous, ils n'en reviennent pas. Que ce soit un black qui soit...
Donc ils n'ont pas célébré la victoire comme vous
Ah non, mais dans le Tennessee, c'est... chez les Mormons, je peux vous dire que les drapeaux, ils n'étaient pas... Et là...
mauvais endroit au mauvais moment.
Non, mais c'est super parce que je suis dans un lieu absolument incroyable le jour où Barack Obama était élu.
Ouais.
Après avoir été à Washington à 3 semaines de l'environnement, j'avais un restaurant qui s'appelait Adour.
D'accord, ouais, donc vous êtes vraiment implanté aux bons endroits au final. Hein. Oui, ouais, à 300 mètres de la Maison Blanche.
Non, mais c'est toujours l'opportunité de... Après, moi, je me suis fait étrier quand j'ai ouvert les États-Unis. Je me suis fait massacrer par la presse. Massacrer parce que j'étais trop cher, la regarde française, etc. Puis finalement, on a résisté et je suis toujours aux États-Unis.
Ah ouais, vous avez persisté. Et donc, quand est-ce qu'on sait si on doit soit persévérer, soit en fait lâcher l'affaire? Parce que c'est difficile parfois l'arbitrage.
Oui. Tant qu'on peut, on va essayer de résister.
Ouais.
D'ailleurs, je raconte dans le livre, quand je fais mix, on est d'accord sur rien, et je vais voir un ami qui est rédacteur en chef du White Spectator, qui s'appelle, je le nomme là, et il me dit, on voit que vous avez perdu l'argent pour finir, alors qu'on avait fait un truc, dessiné. Mais bon, il n'y a pas la compréhension, donc c'est comme ça. Ils n'ont pas compris, ce qu'on était venu faire. D'ailleurs, ce qui m'a rassuré, c'est que quelques mois plus tard, il y a Tadawando qui fait un restaurant, et ils n'ont pas compris non plus. C'était tellement novateur. C'est comme ça, on est tombé à côté. C'est-à-dire, il n'y avait pas le public, pour comprendre ce qu'on avait fait. Mais c'est respectable, non, ça ne marche pas.
C'est un comme hors sujet en philosophie. Hein, oui, ça ne veut pas dire qu'on a faux, quoi.
On est tombé à côté. Donc ça a duré 2 ans, on a fermé, on a perdu, C'est comme ça.
Ça arrive. Bon, j'ai 2 dernières questions pour vous. Si vous pouviez donner un conseil à la jeune génération qui nous écoute. Faut travailler plus vite et mieux. Allez, super.
Dans la compétition d'aujourd'hui, si vous ne faites pas ça, vous êtes sûr de ne pas y arriver, quelle que soit l'industrie dans laquelle vous êtes. Il y a une telle compétition, une telle énergie partout dans le monde. Quand je vois les jeunes, là j'étais à New Delhi, dans mon école, quand je vois le talent, il y a un jeune élève de 23 ans qui a dit, moi je vais faire à manger indien à M. Ducasse. Il a dit, permettez-moi de faire un grand repas. Et j'ai fait un déjeuner indien de haute qualité. Je dis, ce garçon, quand il va avoir acquis les bases et les gestes de la cuisine française, plus la qualité qu'il avait de ce qu'il m'a préparé, il y a du
potentiel.
Il y a du souci à se faire, parce que le gars, d'une cuisine qu'on ne connaît pas, avec des goûts, des couleurs, des saveurs, des odeurs, des parfums, des épices, d'un monde à découvrir. Hein. Je dis, quand ce garçon aura fait la synthèse de ce qu'il sait déjà, de ce qu'il va apprendre avec nous, dans 5 ans, quand il va débarquer à Paris pour faire la haute cuisine indienne, il y a du sushi à se faire.
On verra si l'histoire vous donne raison, mais je pense.
Mais c'est sûr. Mais bien évidemment, parce que c'est une ouverture au monde. Dans une de mes valeurs, il y a rester les yeux ouverts sur le monde. Ça, c'est les carnets de valeurs que je donne à tous mes collaborateurs dans le monde. Il y a 12 valeurs, dont rester les yeux ouverts sur le monde.
J'ai une dernière question pour vous, c'est une question un peu plus philosophique, c'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie?
C'est de garder la destination, de garder le manche, de dire ne pas être sous influence. Prendre le pouvoir de sa vie, c'est décider où l'on est et décider où l'on va, sans être bousculé. C'est pas facile, c'est une décision que je prends tous les matins, sans influence, bien que l'influence, c'est ce qui s'est passé avant, mais c'est aussi tout ce qui fait qui je suis, et rien ne remplacera ma liberté d'agir, puisque chaque matin, j'ai décidé de conduire ma vie.
Super, merci beaucoup Alain, c'était une super conversation. Pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur vous, j'allais dire où est-ce qu'on les redirige, c'est complexe parce qu'il y a beaucoup d'endroits où les rediriger. Donc je dirais déjà vers votre dernier livre, Une vie de goût et de passion, aux éditions JC Lattès, qui sera publié quand cet épisode sortira. Et puis peut-être sur votre site où on peut retrouver peu tout l'écosystème
Ducasse. Tout. Vous avez tout sur mon site. Hein.
Est-ce que vous-même, vous utilisez un peu les réseaux sociaux ou pas du tout?
Non, j'ai pas le temps.
Non, vous n'avez pas le temps.
Je regarde.
Vous regardez un peu quand même?
Ouais,
ok.
Je vais à ce qui passe.
Super, merci beaucoup Alain, et puis j'espère à bientôt.
Merci, à bientôt.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, vous êtes des vrais, et j'espère que cette conversation vous a inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram, en nous taguant @alainducasse et @mybetterself pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.